Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 178, et aujourd'hui on se pose la question, est-ce que l'âge d'or du contenu organique est terminé?
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, je vais être brève dans l'introduction parce qu'on a quand même un gros morceau à... à entendre. Je vous ai livré une masterclass sur Instagram dans le cadre de la promotion de ma nouvelle masterclass « Vue, reconnue, rémunérée et respectée ». Et il y a beaucoup de stock. C'est quelque chose que je pense qui est important à prendre en considération, surtout si le contenu organique fait partie de vos stratégies. Et si, comme moi, vous avez remarqué des changements au niveau du comportement de votre audience ou de votre propre comportement autour des réseaux sociaux ou autour de vos stratégies de contenu, je pense que c'est important de se poser des questions, de prendre des moments de pause pour vraiment se dire « Est-ce que ça fait encore partie de mes objectifs? Est-ce que c'est encore quelque chose qui vaut la peine d'être intégré dans mon mix marketing? » Comment réfléchir à cette question? Et c'est des choses que je veux vous inviter à faire avec ce live qui est devenu, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais honnêtement, quand je vois la structure puis de tout ce qu'on a parlé, c'est vraiment une mini masterclass que je vous ai livrée ici et qui fait vraiment un bon pont avec ce qu'on va voir dans ma masterclass vue, reconnue, rémunérée et respectée. Si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire, mtamarque.com/VRRR. Et comme d'habitude, je suis toujours curieuse d'entendre vos réflexions sur les épisodes que je vous partage, sur ce qu'on discute ensemble, parce que c'est ensemble qu'on est capable de créer beaucoup plus d'intelligence collective autour de ces sujets qui nous tiennent à cœur et qui font partie de notre quotidien. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec ce live. Hello, hello Instagram, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un petit live pour vous parler d'un sujet qui me trotte beaucoup dans la tête depuis plusieurs mois maintenant. Dans les derniers mois, je me questionne beaucoup sur la place de mon contenu dans mes stratégies de visibilité. Puis je me questionne pas juste sur la place de mon contenu, mais ça a un peu été comme une crise existentielle professionnelle même dans les derniers mois parce que j'ai fait carrière, moi, dans le marketing de contenu ou le marketing organique, le marketing inbound. Et pendant plusieurs années, depuis environ 2014, je dirais, 2015, j'ai vraiment été une grande défenseresse de l'utilisation des réseaux sociaux pour établir sa notoriété, sa crédibilité, pour se faire voir, connaître, reconnaître grâce au web de façon purement organique, dans le sens que on n'a pas besoin d'utiliser la publicité, on n'a pas besoin non plus d'avoir des stratégies super compliquées, d'utiliser les plateformes qui sont à notre disposition pour attirer notre communauté, pour gagner notre vie, pour créer des entreprises qui sont profitables. Donc, je voulais vous partager mes réflexions sur sur tout ce que j'ai pris en considération dans les derniers mois, et aussi comment est-ce que moi je veux me positionner par rapport à tout ça, et comment je vais encourager aussi mes clients à se positionner par rapport à leur stratégie de contenu organique, parce que la question qui se pose, c'est est-ce que dans notre contexte actuel, avec ce qu'on remarque au niveau justement des algorithmes, au niveau de l'augmentation des créateurs en ligne, au niveau de la compétition qui se fait de plus en plus féroce, au niveau genre de l'intelligence artificielle qui vient ajouter justement une facilité mais aussi un grand volume au niveau de contenu qui est créé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ce contexte-là quand justement on se basait sur des stratégies de contenu organique pour se faire voir, pour établir des liens avec notre audience? Donc, je veux partager mes réflexions là-dessus, mais avant, je veux aussi m'assurer que vous sachiez que je donne une nouvelle masterclass gratuite la semaine prochaine qui s'appelle Vue, reconnue, rémunérée et respectée. Et dans cette masterclass, mon objectif, c'est de parler des 5 atouts d'une stratégie de visibilité en béton armé à toute épreuve qui va justement s'adapter à ces changements-là qui ont lieu au niveau de l'environnement marketing. Et je vais vous... c'est une nouvelle masterclass parce que je voulais justement incorporer ces réflexions-là au sein, genre, de ce que je vais établir, je vais vous montrer. Et le but ici, c'est vraiment de créer des stratégies, de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les outils du web, comment est-ce qu'on peut continuer à se démarquer pour justement se protéger davantage de la compétition, se protéger de l'éparpillement. Hein, qui est quelque chose de réel, là, la fatigue du créateur, la fatigue de la création de contenu, et aussi des désalignements, parce que ce qui arrive aussi quand on fatigue ou quand on est de plus en plus sollicité, c'est que on se désaligne au niveau de l'audience qu'on veut aller chercher, on se désaligne au niveau des revenus, de comment genre notre modèle d'affaires fonctionne, de l'impact qu'on veut générer, et là, ben, ça crée beaucoup d'interférences dans notre milieu, dans notre vie, dans notre entreprise. Donc, vous pouvez vous inscrire via le lien en bio, c'est mtamarc.com/VRRR pour vue, reconnue, rémunérée et respectée. C'est gratuit, puis ça a lieu la semaine prochaine. Alright. Donc, comme vous savez, d'habitude, quand je fais ce genre de live, j'aime me préparer avec des notes. Donc, j'ai mes notes pas loin d'ici pour m'assurer que je vais couvrir les points que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce que l'âge d'or du contenu organique est terminé? Est-ce qu'on a enfin fini de voir cet Eldorado qu'on a vu pendant de nombreuses années et qui faisait que on pouvait partir de zéro et devenir un héros en quelques mois, en quelques années et créer des entreprises qui sont lucratives, qui sont profitables avec justement genre des outils gratuits comme Instagram, comme Facebook et avec notre jus de cerveau à quelque part? Bon, premièrement, je veux dire une chose. Quand j'ai lancé mon entreprise en 2016, je me rappelle, j'étais dans des... j'écrivais des articles pour une plateforme de blogging, et puis un des articles que je m'étais mis à écrire, c'était... une des questions, c'était « Est-ce que le blog est mort? Hein? » Parce que j'ai toujours écrit sur le marketing, j'ai toujours écrit sur ces tendances-là du web. Et même en 2016, on avait cette conversation à savoir, tu sais, est-ce que l'âge d'or du blog est terminé? T'sais? Puis ce que je trouve intéressant, c'est de se rappeler que là, bon, 8 ans plus tard, on a des conversations semblables où on se dit, tu sais, justement, on avait ces outils-là qui fonctionnaient quand même très bien pour se démarquer, puis là, genre, ben, il y a des choses qui changent, il y a un environnement changeant. Est-ce que ça veut dire que cette tactique-là, que cette plateforme-là, que cette façon de créer du contenu-là est devenue désuète? Naturellement, en 2016, si vous pensez genre 2016 versus aujourd'hui, il y a eu une période où la création d'un blog pouvait générer énormément de vues énormément rapidement parce que justement, on était dans un contexte où il n'y avait pas de saturation. Hein, où il y avait tellement peu de compétition qu'on avait juste besoin d'être présent, on avait juste besoin d'avoir un blog, on avait juste besoin d'avoir une liste courriel et de faire quelque chose, envoyer un courriel, genre publier une fois par semaine ou peu importe, pour que ça se traduise en résultats, en argent, en visibilité, en croissance de notre liste. OK? Donc, si on prend ça comme exemple, hein, puis que là, genre, rendu en 2016, moi, j'ai parti mon blog en 2016, donc sachant que on était déjà en train de dire que le blog était mort, j'ai quand même utilisé cette plateforme-là et ça m'a beaucoup servi, ça m'a servi tout au long de ma carrière entrepreneuriale, mais ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, en ce moment, ben là, on parle du revival ou de la réutilisation du blog dans nos stratégies. Frais. Je vous donne ça comme exemple parce que c'est juste pour dire que ces conversations existent dans les milieux du web, dans les milieux du marketing, quand on réévalue justement les stratégies, quand on sent qu'il y a des changements au niveau de la consommation. Donc, si notre définition, c'est que l'âge d'or de quelque chose, c'est un moment où il y a très peu de compétition, où on peut faire un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Dans cette condition-là, dans ces conditions-là, moi, je dirais que oui, je pense que l'âge d'or des réseaux sociaux et l'âge d'or du contenu organique est terminé. Hein? Est-ce qu'il va y avoir d'autres plateformes? Est-ce qu'il va y avoir d'autres façons genre de générer genre de la visibilité organique? Oui, par contre, ce sera probablement pas aussi facile que ce qu'on était habituée à voir dans les 8 dernières années, je dirais même, genre, bon, ça fait peut-être un an et demi, là, que là, il y a beaucoup de changements rapides qui ont lieu au niveau des réseaux sociaux, donc c'est pas le même momentum qu'on va retrouver comme on retrouvait, genre, au début de Facebook, au début d'Instagram, ou quand les gens ont commencé à utiliser ces plateformes-là un peu plus stratégiquement pour leur stratégie marketing. By the way, je pense qu'il y a encore beaucoup de contenu, de programmes, de philosophie qui continue d'être vendu autour de cette idée qu'on est dans un âge d'or du contenu organique, ou un âge d'or du blog, ou un âge d'or de Instagram, ou un âge d'or de toutes ces stratégies-là. Puis, c'est mon invitation à peut-être faire un peu attention à ces programmes-là qui sont basés sur une prémisse qui est axée dans un ancien paradigme marketing ou une ancienne façon de consommer le marketing qui vieillit mal dans un certain sens, ok? Donc ça, c'était juste un petit à côté. Donc, ce que je remarque, c'est sûr que le temps où les réseaux sociaux étaient en phase de séduction, hein, quand, si vous vous rappelez, je sais pas, c'était quoi, en 2016, peut-être que j'ai rejoint Instagram aussi, ou en 2017, je me rappelais, j'étais en train de regarder mon feed au début, puis je voyais que je postais des trucs genre « je suis allée faire un jogging au parc », genre, puis c'était quand même drôle. Sur mon feed, genre zéro stratégie, mais tu sais, c'était cute, genre, parce que ça, c'était le temps où, justement, on était dans une phase de séduction avec les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux-là étaient dans une phase de séduction avec nous. Si vous vous rappelez, au début, les groupes Facebook, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose que tout le monde utilisait. Il y a toujours cette phase où les réseaux sociaux, parce que c'est des entreprises aussi, hein, veulent justement aller chercher l'engagement, veulent aller chercher une nouvelle clientèle, veulent se montrer sous leur meilleur jour. Et à ce moment-là, c'est le fun, on s'amuse, on se sent super créatif, on rencontre plein de monde. Il y a vraiment comme cette notion très sociale, très ouverte, très libre de l'utilisation des réseaux. En ce moment, il y a Threads, qui est un nouveau réseau qui n'est pas encore saturé, justement, qui vient de faire son apparition dans les 2 dernières années. Et ben, vous allez remarquer, il y a cet engouement, genre, de la nouveauté. Threads est encore dans sa phase de séduction avec l'audience pour voir est-ce qu'on va, justement, trouver un point critique où les gens vont vraiment commencer à venir ici pour faire des affaires, pour faire, pour aller chercher tel type d'informations ou des choses comme ça. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, je vais les regarder un petit peu tout à l'heure parce que je pense qu'elles vont peut-être être répondues dans le live, mais merci de les poser parce que je pense que ça va être important aussi dans notre conversation. Donc, sachant ça, il y a eu un temps où les réseaux sociaux faisaient copain-copain avec les créateurs. Hein. Les réseaux sociaux voulaient justement que les créateurs soient heureux, parce que plus on attire des créateurs de talent, plus on attire du contenu, des gens qui vont créer du contenu, ça va être facilité pour eux de faire du contenu, plus on va atteindre rapidement la masse critique d'utilisateurs ou de consommateurs du contenu. Donc ce qu'on veut, c'est les réseaux sociaux, hein, quand ils commencent à s'implanter dans nos vies, c'est qu'ils veulent aller chercher cette masse critique de créateurs qui va commencer à attirer organiquement, justement, des gens sur la plateforme pour venir consommer le contenu qu'ils créent. Donc, on attend cette masse critique pour prendre d'assaut l'attention autant des consommateurs et la créativité des créateurs. Donc les réseaux sociaux, dans leurs algorithmes, ils fonctionnent selon, justement, d'un côté la créativité, de l'autre côté l'attention, qui sont deux faces d'une même monnaie, qui travaillent ensemble, parce que justement, c'est la richesse de notre époque que de savoir, plus on a des yeux sur un contenu, sur une publicité, hein, plus on peut charger cher aux annonceurs, etc. C'est la même logique que n'importe quelle stratégie publicitaire, quand il y avait des billboards, on les chargeait au coût par mille, donc combien de milliers d'yeux on peut avoir sur une publicité va déterminer le prix qu'on va charger à l'annonceur. Le prix qu'on va charger au client, plutôt, hein, l'annonceur, bref. Donc, ce qu'on voit, c'est que éventuellement, le Far West, qui était un réseau social qui était peu utilisé, où il n'y avait pas tant de gens que ça, où encore il y avait encore beaucoup de liberté, si vous imaginez justement un film de cowboy où il n'y a pas beaucoup de monde, genre, on est encore en train, genre, de coloniser le territoire, puis de voir, genre, où on va installer nos grosses maisons puis nos villages. Hein, le Far West se peuple et la liberté qu'on ressent devient soudainement de plus en plus étouffante parce que plus il y a de monde, moins on a d'espace justement pour être créatif, pour être libre, pour vraiment genre s'investir dans cet espace-là. Donc il y aura de plus en plus de règles, il y a de plus en plus de constrictions, il y a de moins en moins de plaisir, puis c'est comme ça que après ça, éventuellement, ben, les algorithmes se raffermissent et deviennent de plus en plus difficiles à comprendre. T'sais. Encore une fois, si vous étiez là au début de Instagram, on pouvait faire énormément de vues avec justement une publication qui disait « Voici genre mon lunch de ce midi. » Après ça, il y a une phase où c'était comme les fils super esthétiques et là, genre, c'était ça la game. Donc, les règles commencent à devenir de plus en plus strictes pour être capable, genre, d'aller chercher cette attention parce que l'univers de ces réseaux sociaux-là se peuple davantage et devient de plus en plus saturé. Donc, qu'est-ce qui arrive, genre, éventuellement, la dynamique sur ces réseaux sociaux-là change, on voit plus les réseaux sociaux comme des opportunités, mais bien comme des obligations, parce qu'on se dit « Ah, mais là, tout le monde est là, il faut que je joue selon les règles, si je joue pas selon les règles, je serai pas capable de me faire voir, je vais rester au fond de la file. » Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans les rangs et on veut continuer à créer le contenu selon les règles qui nous ont été imposées. Et ça, dans mon optique et dans ce que j'observe, c'est une façon, à quelque part, genre, où on se fait coloniser mentalement, spirituellement, notre attention est soudainement prise en charge, et notre créativité aussi, parce que de ce côté-là, après ça, ben, on se dit « Ah, mais j'ai pas le choix, il faut que je sois sur Instagram, il faut que je sois sur Facebook, il faut que je sois sur ci, il faut que je sois sur ça, parce que si je ne suis pas dessus, ma business va souffrir, je serai pas capable, genre, d'avoir du trafic, blablabla, blablabla. » Donc, les réseaux sociaux, dans leur force de séduction, ont bien fait leur job de se rendre indispensables à nos yeux, et ensuite, de petit à petit, augmenter les règles d'interaction dans lesquelles, soudainement, la liberté qu'on avait, où on était un peu les maîtres de ce qu'on crée dans cet espace, devient, genre, on renverse la dynamique de pouvoir, et là, c'est les réseaux sociaux qui nous dictent comment on doit créer, de quelle façon on doit écrire, comment on doit, genre, s'exprimer, à quel moment il faut publier, parce qu'on a l'impression qu'on est pris en otage par ça pour faire de l'argent, pour avoir des vues. Ceci dit, hein, lorsque la pression, puis là, moi, j'ai écrit dans mes notes l'oppression est trop grande. Ce qui arrive aussi, c'est que, ben, hein, dans ces dynamiques de pouvoir, il y a dissidence, il y a révolte. Les gens qui sont des créateurs réalisent qu'ils sont exploités et à travers cette exploitation, ben, ils se disent, ben là, il faut que je trouve une autre façon de capitaliser sur ma créativité parce que c'est pas vrai que je vais laisser Zuckerberg puis toutes genre ces grosses entreprises-là coloniser mon esprit. Bon, c'est pas tout le monde, il y en a qui préfèrent jouer la game, il y en a qui préfèrent dire comme « moi je vais être au top du peloton puis je vais essayer de jouer la game avec les meilleures règles du monde puis éventuellement genre je vais être capable de les changer », mais pour beaucoup ça va créer ce sentiment de révolte ou ce sentiment de genre « j'ai plus ma place ici, j'ai plus de plaisir ici, je me sens plus libre sur mes réseaux », et ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai ressenti étant quelqu'un qui a investi beaucoup de sa vie, de son temps, de son énergie dans la création de contenu organique. Et je sais que c'est pas quelque chose dont je suis la seule à vivre. Il y a beaucoup de créateurs qui ont commencé à parler ouvertement, genre, des abus qu'il y a sur YouTube, de savoir à quel point, genre, les algorithmes sont vraiment pas derrière les créateurs pour les supporter si, par exemple, ils doivent prendre une pause, s'ils ont des problèmes de santé mentale, tu sais, c'est comme... ou tu sais, ils ont besoin de repos parce que, justement, plus on crée du contenu, plus on devient dépendant, genre, de cette visibilité-là, et plus on est incapable, après ça, de se retirer des réseaux ou de prendre des pauses parce que l'algorithme va nous pénaliser. Et donc, on rentre dans cette espèce de relation de pouvoir avec l'algorithme, et ça crée énormément de pression sur soi qui va éventuellement créer des révoltes. Donc, ce qui se passe en ce moment, puis qu'on remarque de plus en plus, puis vous avez dû le remarquer, surtout après la pandémie, maintenant qu'on n'a plus besoin de rester devant nos écrans 5 jours sur 7, les gens vont tenter de sortir des réseaux, hein, ou ils vont trouver des façons de les utiliser plus intelligemment, de créer davantage de limites autour de leur utilisation de ces réseaux-là. Donc, il y a de plus en plus de réflexions, vous allez le voir à travers les messages que vous voyez passer, sûrement, surtout si vous êtes dans les environnements de l'entrepreneuriat web et des choses comme ça, autour de l'éthique marketing, autour de notre hygiène de consommation, autour de comment protéger notre attention, notre focus, notre créativité. Si vous avez déjà lu des livres ou entendu parler de la notion de deep work, de la grande déconnexion, tu sais, des choses comme ça, c'est des concepts qui sont très vivants en ce moment parce que justement, on remarque de plus en plus non seulement la nature exploitative des réseaux, mais aussi à quel point ça a un effet réel sur notre santé, ça a un effet réel sur notre expérience du monde et sur notre santé mentale notamment. Donc, pour en revenir au contenu organique, tu sais, ça fait des années qu'on le répète, puis c'est pas quelque chose de nouveau, hein, une stratégie basée seulement sur un mode d'acquisition, que ce soit le contenu organique, que ce soit la publicité, que ce soit le networking, que ce soit les références bouche à oreille, quand on se base seulement une stratégie sur un canal d'acquisition, on fragilise la stratégie. C'est un peu la même notion que dans un portefeuille d'investissement financier. Si vous avez juste une source de revenus, si par exemple, vous avez seulement votre travail, vous n'avez pas d'investissement, vous n'avez pas de fonds d'urgence ou des choses comme ça, puis que vous perdez votre travail ou que vous ne pouvez plus travailler pendant un certain temps, votre santé financière est en danger. Mais c'est la même chose dans des stratégies marketing, dans des stratégies de visibilité, c'est que si on se base uniquement sur une source d'acquisition et que cette source commence à se tarir, ben là, on est dans la merde un petit peu, parce que là, genre, on n'a pas développé les autres canaux d'acquisition qui nous permettraient, genre, de stabiliser les fluctuations. Donc, le contenu en soi est une stratégie d'acquisition, mais pas que. C'est aussi une stratégie de conversion, c'est une stratégie de nurturing, comme on dit, donc de maintenir des relations avec des gens qui ont déjà fait partie de notre environnement. Et dans cette optique-là, le contenu a encore sa place, mais, tu sais, plus que jamais, on ne devrait pas nécessairement se baser sur la game des algorithmes, mais plutôt renforcer les intentions de cette stratégie, puis de comprendre comment, de sophistiquer à quelque part notre stratégie marketing globale pour renforcer l'intention du message, sans quoi, ben, on va risquer de devenir viral, parce qu'on joue tellement bien la game des réseaux sociaux, qu'on va devenir viral avec un contenu qui ne va pas convertir, qui ne va pas nous positionner d'une façon intentionnelle. Puis là, genre, j'imagine que vous avez vu là en ce moment, peut-être, hein, le contenu viral de la femme qui fait « Hook-toi ». Cette femme, « Hook-toi », ben, elle a eu un succès monstre overnight pour quelque chose qu'elle dit ouvertement. Je veux pas être connue pour ça. Je veux pas nécessairement que la postérité me connaisse uniquement pour cette joke que j'ai fait sur une vidéo un jour alors que je sortais d'un bar. Donc, focusser sur la viralité avec notre contenu ou focusser sur la viralité même avec notre stratégie d'acquisition, c'est pas toujours une bonne solution. En fait, c'est rarement la bonne solution si c'est pas fait d'une façon intentionnelle avec justement un objectif de diversification. Donc, au lieu de chercher le hack pour avoir plus d'yeux sur notre contenu, on devrait focusser sur une plus grande conversion des yeux qu'on a déjà. Puis ça a toujours été le cœur de mes stratégies au niveau du contenu organique, c'est de dire, oui, on va aller chercher des gens, mais il faut qu'on cherche les bonnes personnes parce qu'une fois qu'ils sont dans notre environnement, ce qu'on veut, c'est les maintenir le plus longtemps possible engagés afin que le temps et l'énergie qu'on a mis à acquérir ces personnes-là ou à les imbriquer dans notre écosystème de visibilité, de contenu, de marketing, après ça puisse perdurer dans le temps le plus longtemps possible. Parce que justement, on n'est pas des multinationales, on n'a pas des budgets genre illimités, on n'est pas Amazon avec genre des milliards de dollars, on n'est pas non plus une équipe de 50 personnes attitrées à notre contenu, on a des limitations et ces limitations font qu'on doit être hyper éco-éthique avec nos efforts marketing. Donc, continuer à utiliser le contenu, oui, moi je suis d'accord avec ça. Ceci dit, dans une optique non pas nécessairement juste d'acquisition, mais comme on l'a dit, hein, de conversion, de renforcement de la marque et de nurturing. Donc, on peut utiliser des stratégies de croissance, mais ça devrait jamais être avant nos stratégies de positionnement puis nos réflexions sur la stabilité et la sécurité qu'on crée avec la diversification de nos points d'acquisition. Ça semble peut-être un peu compliqué comment je vous en parle comme ça, c'est quand même assez abstrait, mais à quelque part, si vous pensez encore une fois à votre portefeuille financier, ce que vous voulez, c'est d'avoir le plus d'influx de revenus pour que vous ne soyez pas toujours dépendant sur un seul, parce que si jamais celui-là, il brise, ben après ça, genre, vous savez que vous avez d'autres places par où, genre, vous pouvez vous supporter s'il y a quelque chose d'autre, vous supporter pendant que vous trouvez d'autres façons, genre, de gérer. Donc, pour moi, le contenu aujourd'hui devrait être en priorité utilisé pour networker. Donc, networker dans le sens maintenir des réseaux ou créer des réseaux. Puis ça, ça a toujours été ça, dans le fond, l'optique des réseaux sociaux ou du contenu organique, c'est de s'assurer que, justement, on crée des connexions avec d'autres personnes. Et pas juste qu'on crée des émissions de messages qui, après ça, ne créent pas des connexions. Donc, le contenu comme élément de networking, c'est un shift mental qu'il faut faire et qu'il faut toujours faire. Il fallait le faire en 2016, on doit le faire aujourd'hui, de savoir que le contenu n'est pas juste un billboard publicitaire, mais vraiment, genre, une opportunité de créer un lien et un lien qui va être maintenu au fur et à mesure qu'on développe nos stratégies de contenu. Deuxième focus d'utilisation du contenu, c'est pour renforcer les messages. Là, à ce moment-là, oui, on peut prendre comme métaphore les billboards sur l'autoroute, parce que si on y pense, hein, le billboard, si on le voit plusieurs fois, on est comme, OK, dans une sortie ou dans cinq sorties, il y a tel restaurant. Dans trois sorties, il y a tel restaurant. Dans une sortie, il y a tel restaurant. OK, t'as manqué le restaurant, là, c'est le prochain, il est dans 10 sorties. T'sais? Puis comme ça, on renforcit le message et on renforcit le désir aussi chez les gens de savoir comme le moment où je vais avoir faim, je vais savoir que ce restaurant-là est à telle place et je vais pouvoir m'y rendre de telle façon. OK? Donc, le contenu est là pour créer ces renforcements, aussi ces rappels, mais aussi offrir des portes d'entrée à nos clients, hein, pour dire comme... je suis présente de façon organique pour te rappeler, genre, voici une porte d'entrée, voici une porte d'entrée, voici une porte d'entrée pour telle chose, une porte d'entrée pour telle chose, pour s'assurer que la personne, après ça, soit capable de localiser les bons lieux. Moi, dans mon optique, ça, j'appelle ça créer de la notoriété, hein, c'est un des objectifs beaucoup plus fort, selon moi, que la visibilité, parce que la notoriété, après ça, elle s'imprime à l'intérieur, genre, des messages qu'on reçoit, et on se dit, ben, Tatiana, c'est la personne qui fait ceci. T'sais, donc, je sais qu'elle est située là, dadadadada. Et plus on répète, plus on est présent, plus on est dans la conscience des autres, de notre audience, plus ils sont capables de voir ces portes d'entrée-là. Donc, un mot sur la pub maintenant, parce que je pense que c'est important qu'on parle de la différence entre ou de où on en est maintenant aujourd'hui avec les stratégies de contenu versus les stratégies payantes. Et c'est intéressant parce que moi, quand j'ai commencé ma business, j'ai jamais fait de pub, sauf parfois lorsque je faisais des masterclass, je mettais 400$ dans la pub pour quelque chose, genre, tu sais, juste pour avoir un petit boost, mais j'ai jamais été une professionnelle de la publicité, même si je sais comment ça fonctionne, j'ai fait des campagnes de pub pour mes employeurs ou pour des clients que j'avais. Ceci dit, dans ma stratégie, ça faisait pas partie de mon mix marketing, jusqu'à tout récemment où... peut-être qu'il y a même pas un an, 6 mois, j'ai commencé à expérimenter un peu plus sérieusement avec la pub. Et l'affaire que on doit comprendre avec la pub, c'est que on dit souvent que le contenu organique, c'est lent et c'est gratuit, mais c'est faux. Le contenu organique, on le paye dans notre temps, dans notre énergie. Et d'un autre côté, on se dit, ben, la pub, on la paye en argent, mais c'est plus rapide. Alors que quand on réfléchit aux stratégies d'acquisition organique et payante, les deux demandent de l'investissement et les deux prennent du temps, surtout parce qu'on est en train, genre, d'identifier quels sont les meilleurs chemin d'acquisition justement pour notre clientèle. Si on ne sait pas ce qu'on vend, si on ne sait pas à qui on le vend, si on ne sait pas par où on le vend, comment ils doivent rentrer, pourquoi ils doivent rentrer, ça sert absolument à rien à faire de la pub. C'est la même, c'est la même problématique que la viralité, dans le sens que si on devient viral pour quelque chose dont on n'est pas conscient ou qu'on n'est pas intentionnel, ben ça va... Ça va probablement pas nécessairement nous aider dans notre brand, mais ça peut même nous nuire. OK? Même chose avec quand on augmente la visibilité sur quelque chose, il faut qu'on soit préparé aux conséquences positives et négatives que ça va amener. Mais dans le cas de la pub, ce qui va amener comme conséquence négative, c'est que probablement si c'est mal ciblé, on va mettre de l'argent dans quelque chose et on va éventuellement jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, souvent, quand on se dit « est-ce que je dois faire de l'organique ou du payant? », c'est pas une question un ou l'autre, c'est plus une question de « est-ce que t'es prêt à perdre du temps ou est-ce que t'es prêt à perdre de l'argent? » Puis les deux, à quelque part, reviennent au même, parce que quand on perd du temps, on perd de l'argent aussi. C'est notre temps qu'on a investi là-dedans et qu'on retrouvera jamais. Okay? Donc, de mon expérience, je pense que c'est intelligent de faire un mix des deux. Si vous êtes capable de faire un mix des deux, tant mieux. Si vous êtes capable de baser l'un sur l'autre aussi, de dire « j'ai commencé quelque chose d'organique pour voir comment ça prenait de façon organique pour ensuite mettre des revenus dessus », c'est souvent genre la meilleure option. C'est pas tout le monde qui a le cash flow pour faire ça. Par contre, tu sais, c'est quelque chose qui peut vraiment, encore une fois, on parlait genre de différentes formes d'acquisition, différents canaux d'acquisition, ça peut être une bonne option de le faire. Ceci dit, tu sais, c'est pas plus noble de faire juste une stratégie de contenu organique, c'est pas plus evil de faire de la pub. Les deux utilisent les mêmes plateformes extractives, exploitatives, hein? L'argent va à la même place, soit on exploite notre attention ou nos portefeuilles, les deux travaillent dans le même écosystème, ok? Donc c'est vraiment quelque chose d'intentionnel qu'il faut faire ici, mais un mix marketing, un bon mix marketing va sûrement utiliser les deux. Si vous voulez en entendre un peu plus sur... le mix entre contenu organique et contenu payant, j'avais enregistré un épisode de podcast sur le féminin, qui est l'épisode 136, avec Charles Davignon de l'agence Antop, avec qui j'ai travaillé aussi. Donc, je connais bien sa philosophie, son éthique et tout ça. Et le titre de l'épisode, intégrer publicité en ligne et contenu organique dans sa stratégie marketing. Donc, si vous êtes intéressé, c'est l'épisode 136 sur l'ambition au féminin. Donc, ceci dit... en plus du contenu payant et organique, ce qu'on va voir aussi au niveau des comportements, hein, c'est qu'il y a une recrudescence de stratégies marketing de plus en plus sophistiquées. Et là, genre, je dis sophistiquées dans le sens que, encore une fois, je vous parle de mon expérience de consultante et de professionnelle marketing et communication qui travaillait dans des entreprises. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'une stratégie bien montée va aller chercher différentes sources. Comme par exemple, on va utiliser les relations médias, on va utiliser la sollicitation directe si c'est nécessaire. On va utiliser d'autres stratégies pour créer une stratégie bien balancée. En tant que solopreneur, en tant que consultant, souvent, on va focusser sur une stratégie parce que c'est plus facile à gérer, parce qu'on est seul, on n'a pas beaucoup d'énergie, hein, puis tout ça. Ce qui est normal aussi. Ceci dit, dans l'environnement dans lequel on évolue, on est en train de sophistiquer les stratégies marketing en tout et pour tout, y compris chez les solopreneurs. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est justement d'aller voir est-ce qu'il y a des possibilités pour nous de faire des relations médias. Ça a l'air big, genre des relations médias, mais ça peut être genre d'écrire une lettre d'opinion dans le journal de sa ville. Ça peut, tu sais, c'est pas obligé d'être des affaires genre super intenses, Forbes 40 under 40. Tu sais, ça peut être des choses quand même assez directes, mais tu sais, il y a d'autres types de médias qui sont en contact avec notre audience qu'on oublie souvent parce que pour nous, être sur Instagram, être sur Facebook, c'est plus facile, entre guillemets, où on est plus habitué. Mais il y a d'autres stratégies marketing qu'on peut intégrer à notre mix. La sollicitation directe, souvent on va vraiment snobber l'idée du cold calling, mais la sollicitation directe reste un des plus anciens et des plus efficaces moyens d'aller chercher de la clientèle ou d'aller se faire connaître, du porte-à-porte. Ça vous dit de quoi? Ben c'est pas pour rien genre que beaucoup d'industries qui sont pérennes, comme par exemple genre l'immobilier. L'immobilier, ça fonctionne énormément avec du porte-à-porte, des billboards, des lettres qui sont envoyées genre randomly, parce que justement, tu sais, c'est des stratégies qui fonctionnent. Si vous, ça vous plaît pas d'un point de vue éthique ou peu importe, c'est quelque chose, puis tu sais, c'est bon à respecter. Par contre, tu sais, il y a rien de amoral à utiliser ces tactiques-là dans son mix marketing. L'autre chose que je trouve vraiment utile, c'est le networking de contenu. Pour moi, le blog, mon podcast sont des façons pour moi de faire du networking de contenu, qui est un terme que j'ai inventé. Je crois que c'est l'épisode 86 dans mon podcast qui parle de ça, mais vous allez sûrement pouvoir le trouver facilement sur Google si vous tapez networking de contenu et aime ta marque. Le networking de contenu, c'est d'utiliser le contenu, comme par exemple les opportunités de créer des entrevues avec des experts ou des choses comme ça, pour aller non seulement toucher différentes audiences, hein, parce que nos invités vont probablement partager ce contenu à leurs audiences, mais aussi de créer de réelles relations avec d'autres experts dans des milieux connexes. C'est du networking, c'est juste qu'on le fait par le biais du contenu, donc on fait d'une pierre deux coups, en justement étant non seulement en train de solidifier notre réseau, mais aussi de créer du contenu pour notre audience, du contenu de nurturing, du contenu de conversion. Je vous donne plein de ressources aujourd'hui. Là, il y avait l'épisode de podcast sur le networking de contenu, mais il y a aussi une masterclass gratuite que j'avais donnée. Je sais pas si elle est gratuite, bref, qui s'appelle Marketing de l'enchantement. Petit prix, là, genre, c'est pas quelque chose de big, là. Marketing de l'enchantement, où je parle notamment de comment créer un mix marketing dans un environnement sophistiqué. Donc, à trouver sur mon site web dans l'onglet ressources. Si vous la trouvez pas, écrivez-moi en privé, puis je vous enverrai le lien. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce qui était simple, mettons en 2016 quand j'ai commencé, ou même genre, tu sais, avant, devient de plus en plus complexe, et c'est normal, c'est le propre d'un marché qui arrive à maturité, c'est le propre des outils aussi qui arrivent à maturité. Par exemple, genre Facebook d'il y a 10 ans, c'est pas le Facebook d'aujourd'hui, maintenant il s'appelle Meta, by the way. Donc c'est un cycle normal d'évolution, et en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui évolue dans ces milieux-là, on doit s'adapter. Donc, quelques conseils pour justement s'adapter à cet environnement changeant, ben pour moi, c'est vraiment clair qu'il faut bien comprendre que les tactiques marketing vont évoluer, c'est normal, mais que certains principes sont indémodables. Hein? C'est ces principes-là qu'il faut apprendre à maîtriser et non pas les spécificités d'une plateforme. Certains de ces principes-là, c'est notamment le storytelling. Il y avait une question un peu plus tôt dans le chat à propos du storytelling. Toujours aussi pertinent, le storytelling est une pratique millénaire. C'est une des plus vieilles pratiques de communication qui existent chez les humains. Donc le storytelling ne va jamais sortir de mode. C'est une façon de communiquer qu'on utilise autant sur le web que dans la vraie vie, qu'avec nos enfants, qu'à la télévision, t'sais. C'est des choses qui sont indémodables. Donc le storytelling, ça c'est un des skills qui ne va jamais se démoder, genre, et si on comprend comment faire ça, que ce soit sur Instagram, TikTok, whatever, genre la plateforme, s'il y en a une qui ferme, il y en a une autre qui ouvre, ces principes-là vont perdurer. Ils vont perdurer même au-delà, je dirais, que n'importe quel principe de copywriting qu'on connaît aujourd'hui. Parce que les principes de copywriting, encore une fois, il y en a qui sont à la mode, il y en a qui sont plus à la mode. Genre, si vous regardez des publicités des années 60, hein, qui sont super bien copyrightées selon les standards des années 60, ça fonctionnerait probablement pas avec nous aujourd'hui. Donc, prenez, genre, les trucs de copywriting un peu dans le même angle. C'est comme, ça fonctionne aujourd'hui, c'est bon à savoir aujourd'hui, mais est-ce que je comprends les principes qui sous-tendent ces principes-là, parce qu'éventuellement, il va falloir qu'ils s'adaptent, comme n'importe quoi. L'autre chose qui est un indémodable, c'est un messaging précis et engageant. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est des choses qu'on doit développer, justement, avec une psychologie de notre audience, de notre clientèle, de vraiment être capable de se mettre à leur place pour comprendre quels mots j'utilise, quel levier je vais utiliser dans mes communications pour être capable d'être à la fois précise, mais aussi d'amener les gens à l'action, de les engager dans l'action. Ça, c'est un skill d'influence. On a l'impression que le messaging, c'est un skill de copywriting, mais c'est un skill d'influence. Copywriting, c'est genre un métier d'influence anyway, mais ça, c'est une autre question. Donc, travailler sur le messaging, travailler sur la précision et l'engagement de ça, c'est quelque chose d'indémodable. Création d'offres irrésistibles. Tu sais, ça a l'air évident, mais de savoir comment justement créer rapidement, fluidement, des offres qui vont avoir une réelle valeur pour les gens qui nous entourent. Être capable de saisir les opportunités. Indémodable. Gestion de nos ressources énergétiques et financières. Ça a l'air pas lié du tout genre au marketing, mais si vous avez écouté tout ce live puis que vous comprenez genre dans quelle direction on s'en va, c'est d'autant plus important de savoir où mettre les limites parce qu'on va devoir faire des choix éclairés sur quelles sont mes capacités budgétaires, quelles sont mes capacités énergétiques, d'attention, de créativité, parce que justement les plateformes ou les différentes tactiques qu'on va utiliser vont nous demander de ces ressources-là, et si on n'est pas capable de les gérer, on va se brûler. On va se brûler, on va surdépenser en publicité, on va surinvestir des plateformes qui ne nous rapportent pas parce que, bon, justement, on a l'impression qu'il faut être dans A, B, C parce qu'on a vu que pour tel créateur, Instagram, c'est da-da-da, genre, tu sais. Fait qu'on ne va pas prendre les bonnes décisions. Et on va pas être capable de mettre les bonnes limites autour des stratégies ou du mix marketing qu'on va décider d'utiliser pour nous-mêmes. Et l'autre principe ou l'autre aptitude à développer, là, c'est l'agilité technologique. Donc, sachant que si on connaît les bases du storytelling, on est capable de faire un messaging précis et engageant, on a des offres irrésistibles parce qu'on est capable de les créer puis de les recréer, on est capable de gérer nos ressources énergétique et financière, ben après ça, le top de la pyramide, c'est notre agilité technologique, donc d'être capable d'apprendre rapidement une nouvelle plateforme, de comprendre comment elle fonctionne, puis encore une fois, là, c'est pas... On a l'impression de penser que c'est des affaires super compliquées, mais c'est quand même assez simple. Quand on comprend la mécanique qui sous-tend le modèle d'affaires de la plateforme sur laquelle on est, c'est facile après ça de déterminer ben, qu'est-ce qu'ils veulent genre, en termes de contenu. Sauf que le problème, c'est quand les gens disent genre « je vais m'adapter à la plateforme avant d'avoir établi toutes ces autres choses en amont. » Ok? Donc, rendre nos offres et notre expertise visibles. Hein, la visibilité, ça reste essentiel, mais il faut s'assurer plus que jamais de ne pas manquer notre chance de faire bonne impression. Parce que jadis, quand on était dans le Far West, comme j'expliquais au début de cette vidéo, tu sais, c'était facile de nous trouver, là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de compétition, il y avait moins de volume de compétition. Mais là, maintenant qu'il y a énormément de volume, tu sais, ça va super vite, l'autoroute va super vite. Et donc, si on capte pas l'attention et on capte pas l'impression qu'on est capable de générer dès le départ, et de laisser une empreinte positive, de laisser une trace positive à ceux qui nous voient, ben on va avoir de la difficulté. Après ça, on va s'épuiser énormément à créer du contenu parce que on est dans un marché saturé et hyper compétitif. Donc, si jamais vous avez des questions, laissez-les ici. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de stock. Vous allez peut-être vouloir le réécouter, prendre des notes. N'oubliez pas de vous inscrire à ma masterclass « Vu, reconnu, rémunéré et respecté ». On va parler plus en détail des 5 atouts d'une stratégie de visibilité à toute épreuve. C'est gratuit, mtamarque.com/VRRR. Et je vais rester encore un petit peu si vous avez des questions. Sinon, ben, je vous souhaite vraiment bonne chance dans ce marché vraiment quand même assez... je dirais, j'ai pas envie de dire comme agressif, mais c'est sûr qu'avec le volume là, qu'on rencontre aujourd'hui, tu sais, beaucoup d'entre nous, on se sent un peu bousculé par les changements. Puis comme je vous disais aussi au début, moi, en tant que professionnelle dans ce domaine-là, tu sais, je crois encore en la valeur du contenu organique. Par contre, c'est sûr que il faut réfléchir à de quelle façon on va l'utiliser stratégiquement dans nos stratégies multiplateformes, dans nos stratégies avec différentes portes d'acquisition. All right! OK, je pense qu'il y avait une question un peu plus haut. Je vais juste regarder. Quel rôle joue le storytelling dans la maximisation de l'efficacité du contenu organique? OK, je pense que j'ai parlé un petit peu de ça dans ce qu'on a discuté par rapport aux conditions, là, aux principes indémodables. Le storytelling, justement, joue à un niveau supraconscient auprès des gens. Souvent, ce qui se passe, c'est que notre cognition, elle est saturée, justement, par la surinformation. J'ai vu récemment qu'on avait entre 4000 et 10000 impressions de publicité par jour. Et donc, notre cerveau doit faire le tri là-dedans. Le storytelling nous permet de adresser une partie qui est peut-être moins impliquée cognitivement dans le tri de l'information et beaucoup plus émotionnellement, à savoir, t'sais, est-ce que je vibre avec cette histoire? Est-ce que ça me rappelle à moi? Donc, il y a quelque chose de plus relaxant dans l'idée de consommer du contenu storytellé. Ceci dit, il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait une intention, il faut que ce soit utile. Donc, il y a comme une balance à faire de ce côté-là. OK, autre question. Est-ce que tu aurais un contenu, livre, blog sur l'influence pour développer le skill influence? J'ai l'impression que tout... toute mon œuvre est sur l'influence parce que tout ce que je fais... moi, je suis beaucoup moins intéressée par la visibilité que par la notoriété. Parce que selon moi, la notoriété, c'est ce dont tu parles en termes d'influence, il me semble. Du moins, c'est comme ça que moi, je le comprends. La notoriété, c'est cette influence qu'on a parce qu'on sait qu'une fois qu'on s'est établi comme autorité de marque dans un domaine, dans une expertise, ensuite, c'est beaucoup plus facile d'amener les gens à l'action, d'être top of mind, d'être la personne ressource dans un certain domaine. Donc, est-ce que j'ai un contenu? Non. J'ai pas mal, genre, toute mon œuvre, tous mes programmes sont axés autour de cette idée que, à la place d'aller chercher le volume, on veut aller chercher la précision pour que les actions qu'on va poser vont générer un maximum de retour. Donc, minimum d'efforts pour un maximum de retour. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne parce que j'ai jamais voulu fonctionner dans le volume. Je trouve ça trop épuisant. Et donc... c'est pour ça que je le focus de cette façon-là. Oui, c'est ça, et la capacité de trouver les bons mots. Oui, la capacité de trouver les bons mots, ça aussi, c'est quelque chose qu'on travaille dans mes programmes. Surtout, on travaille au niveau des messages de marque, on travaille au niveau du positionnement, on travaille au niveau de savoir, tu sais, qu'est-ce qui fait que notre offre est irrésistible? Comment est-ce qu'on fait pour, justement, être le plus proche possible de l'intention qu'on a et de la vision qu'on a pour pas diluer le message en plein de petits morceaux qui sont plus ou moins impactants, plus ou moins génériques, plus ou moins fades et qui vont pas avoir l'effet qu'on désire. Donc, c'est des choses qu'on travaille quand on travaille sur le positionnement. Donc, dans mes programmes comme Positionnement authentique, dans Terre fertile qui inclut maintenant Money Brand, tout ça, c'est des choses là où on va chercher justement ce skill de communication, ce skill genre de créer le point de contact avec nos clients à travers le contenu. Comment les algorithmes et les changements de plateforme influencent-ils la portée et l'engagement du contenu organique? Je suis pas exactement sûre comment répondre à cette question-là. Ceci dit, Genre, je te donne des exemples. Tu sais, en ce moment, sur Instagram, tu sais, Instagram peut se réveiller un matin. Meta peut se réveiller un matin sur Instagram et dire comme... on a envie d'augmenter notre capacité, on a envie d'augmenter notre base de données en termes de comportement visuel. T'sais. Et là, ils vont dire, on va récompenser les créateurs qui font du contenu vidéo ou du contenu visuel. Et donc, là, ils vont sortir les carousels, ils vont sortir les reels, ils vont sortir ces affaires-là pour pouvoir aller chercher ces datas-là. Qui, après ça, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils les vendent aux annonceurs ou ils les intègrent dans leurs algorithmes publicitaires. Donc, pour eux, les algorithmes ne sont pas là pour nous servir, nous, les créateurs. Ils sont là pour servir leur modèle d'affaires. OK? Puis nous, en tant que créateurs, si on veut surfer sur ces algorithmes-là, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils recherchent exactement et qu'est-ce qu'ils priorisent à ce moment-là dans le temps selon leur stratégie d'affaires. OK? Donc, on est en train de travailler sur la stratégie d'affaires de quelqu'un d'autre en espérant de nous être capables de surfer sur cette vague-là. Comment est-ce qu'ils influencent la portée et l'engagement du contenu? C'est qu'ils l'influencent un peu arbitrairement jusqu'à un certain point, ou du moins selon leur propre avantage, OK? Donc, ces algorithmes-là peuvent changer constamment, rapidement, sans crier gare, et c'est ce que la plupart des créateurs se plaignent, parce qu'ils disent, tu sais, du jour au lendemain, ma portée... elle a diminué énormément. Du jour au lendemain, si je parle de tel sujet, l'algorithme me pénalise. Et c'est pas nécessairement parce que le contenu est pas bon, c'est simplement parce que le contenu n'est pas en accordance avec les objectifs politiques, économiques, stratégiques de la plateforme sur laquelle on est. OK? Puis ça, il faut juste le comprendre. On peut rien vraiment faire comme ça parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on emprunte ces technologies-là et on espère, genre, en récolter des miettes qui vont nous servir à nous. Moi, avec 2000 abonnés, je suis capable de faire beaucoup, tu sais, de vivre très bien, tu sais. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir 1 million d'abonnés. Fait que pour moi, genre, surfer les vagues, surfer les trends, c'est pas nécessairement mon objectif, parce que moi, mon objectif, c'est de faire une business, c'est d'impacter les gens, c'est de faire... j'ai un certain modèle d'affaires, puis mon modèle d'affaires fonctionne selon une certaine façon. Fait que c'est ça aussi de réfléchir comme, si j'emprunte ces plates-bandes qui fonctionnent selon un modèle d'affaires spécifique, ben, quel est mon modèle d'affaires qui peut utiliser cette façon de fonctionner pour ensuite... que moi, j'en tire avantage. Tu sais? Fait que ne pas jouer la game de leur modèle d'affaires, mais plutôt jouer la game de nos modèles d'affaires, puis de voir, tu sais, on est un peu dans cette espèce de lutte d'intention ou de lutte, tu sais, concurrentielle sur quel sera l'avantage de chacun. Ceci dit, il faut savoir que les plateformes ne peuvent pas exister si elles n'ont pas de créateurs. Donc, on a un certain pouvoir aussi. Mais encore une fois, il faut savoir, tu sais, comment est-ce qu'on investit ces plateformes et quelle place ils ont dans notre écosystème entrepreneurial, notre écosystème business. Est-ce que ça répond aux questions? Est-ce que ça fait du sens, ce que je viens de dire? Merci pour les questions, c'est quand même, c'est vraiment des bonnes questions. Good. All right. N'oubliez pas, inscrivez-vous à la masterclass, on va parler de plein de choses vraiment intéressantes. Et ouais, genre c'est un sujet qui me fascine en ce moment parce que justement, tu sais, on est dans un shift, il y a une grande réflexion, il y a un grand burn-out collectif, je pense, qui est associé à notre utilisation des technologies, mais ça c'est pour un autre sujet. Et je pense qu'il faut réfléchir à comment les utiliser de façon responsable, de façon stratégique, surtout parce que en tant que créateur, tu sais, notre énergie créatrice, c'est une énergie extrêmement puissante et il faut savoir l'investir aux bons endroits, de la bonne façon et protéger aussi ces ressources-là. All right, tout le monde, merci d'avoir été là, puis on se parle bientôt. Ciao! Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu, c'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.